ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane Zohran Evracha. Alors la question de Yosef.
Dans la Torah, en fait, on interdit la moquerie, mais j'aimerais savoir ce qu'on appelle moquerie. Est-ce que c'est vraiment humilier son prochain, ou est-ce que c'est juste, bah, si on rigole avec lui, c'est vraiment de la moquerie? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est du lashon hara? Qu'est-ce que c'est en fait?
D'abord, dans le mot moquerie, il y a deux choses. Hein. La letzanout en hébreu, c'est marqué qu'il y a quatre groupes de personnes qui ne voient pas la face de la shrina quand ils meurent. C'est très grave, parce que tout le sens du Olam Haba, c'est voir la face de la shrina, c'est être en communion avec Dieu. C'est le groupe des menteurs, le groupe des ceux qui parlent lashon hara, la médisance, et qui disent, médisance c'est un mauvais mot en français, c'est qui disent une chose vraie sur quelqu'un, mais qui est négative. Si c'est une chose qui est fausse, c'est beaucoup plus grave. Ça rentre aussi là-dedans. Mais même si c'est vrai. Le groupe des moqueurs, les tsanout, des railleurs, d'accord, on va expliquer c'est quoi exactement le mot dans quelques secondes. Et enfin, le groupe des flatteurs, celui qui flatte pour accéder à ses propres intérêts. Tous ces quatre groupes-là, Dieu nous en préserve, n'ont pas, quelque part, sont super bloqués là-haut. C'est ceux qui sont habitués. Celui qui fait ça épisodiquement, après fait tchouva, il pourra voir la Beit Hashem, la face de la Shrina. Et même ceux-là qui sont habitués, s'ils font tchouva, ils pourront aussi voir. Il faut faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'etzanout? Traduction mauvaise en française, moquerie. Alors, ce n'est pas dans le sens uniquement, comme tu as dit, moquer, ça veut dire humilier quelqu'un, ou même l'humilier en rigolant, et c'est pas grave, et on s'envoie des vannes, comme on dit en bon français. C'est la letzanout, c'est aussi même rigoler. La rigolade en tant que rigolade. Rigolade. D'accord? Ça veut dire, c'est pas interdit de rigoler, mais pas trop. Alors là, c'est où est la limite? La Gemara dit bien que, je me souviens, c'est Rava ou Rava commençait son chiour avec Bdichuta. Il racontait une blague, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Parce que l'Etserara, il ne veut pas accepter la Kedusha, la sainteté. Alors on lui donne un petit os comme ça, et après il nous laisse passer. C'est comme en Amérique du Sud, il y a des fleuves, des rivières où il y a des piranhas, des poissons carnivores. Alors, on va passer le troupeau, c'est fichu, ils vont dévorer les vaches. Alors on lance une vache dans la rivière, et elle est dévorée, tous les piranhas, ils ne sont pas intelligents tellement, ils voient la vache, ils vont sur la vache, les autres peuvent passer. Là aussi dans la Torah, hein, très souvent, il y a des notions pareilles où on donne un petit os comme ça au côté négatif pour qu'il nous laisse passer. Alors si on fait une blague dans ce sens-là, dans les cours que je fais, il y a beaucoup d'humour. C'est important. Parce que des fois, quand c'est un chiour super sérieux sur la Torah, ok, alors tout le monde va écouter, mais il y a beaucoup d'etc., il y a beaucoup de résistance maintenant. Si ça rigole... Il est content. Lui aussi, il est content. Il sait, ah bon, ça rigole, bon, ça devient intéressant. D'accord. On dit en rigolant, c'est un copain à moi décédé. Les deux, on a commencé à faire des conférences. C'était à l'époque Chaim Sigler. Ah, c'est comme les petits-enfants. Tu veux lui donner sa popote, là. Il ferme la bouche. Alors, tu le chatouilles. Ah, tchik, et tu l'enfonces la cuillère, voilà. Donc, le même système. Donc, c'est permis si c'est dit avec utilité. Il y en a qui aiment rigoler, pour rigoler, encore rigoler. C'est très typique du monde français. C'est très typique du monde français. Et c'est clair, comme dit le Mishnah de Charim, c'est une chose qui amène à la erva. En fin de compte, ça amène aux interdictions sexuelles. Parce qu'on rigole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la source de la rigolade? C'est ne pas être sérieux. Oublie le sérieux de la vie. Et la vie est sérieuse. Il n'y a rien de plus sérieux que la vie. Il n'y a rien de plus important, grave, je ne sais pas quel mot je dois dire, grandiose, terriblement important que chaque seconde de vie. Ah, c'est super angoissant ce que je dis. Ben oui, mon cher ami, on meurt. On meurt quand on est jeune, on ne se rend pas compte, mais la vie passe très, 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 très vite. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut profiter. C'est quoi profiter? C'est pas aller au Club Med et raconter des blagues. Profiter, ça veut dire construire au maximum, gagner pour la suite qui sera éternelle. éternel. On oublie ça. Éternel. Dans quelques milliards de milliards d'années, on sera dans la même situation, de ces quelques petites années qu'on a eues ici. Tu te rends compte, l'impact de chaque acte qu'on fait, c'est inimaginable, inimaginable. Donc c'est hyper sérieux. C'est hyper sérieux. Maintenant, le Sahara, il n'aime pas être seul, le Sahara. Il veut rigoler. Le nefesh, la partie animale, ouh là 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 là, c'est angoissant, il me soutient, zappons. D'accord, on va mettre un autre cours plus rigolo. Voilà. On va mettre un rav qui rigole. Rabbi Chitrit, il m'a dit que c'est en fonction du niveau intellectuel du public, il fait plus ou moins de blagues. Quand c'est des gens super intello, alors une blague, deux blagues maximum. Il y en a que ça passe pas, un discours intello. Alors on fait que des blagues, d'accord ? Bon, on peut faire chouva aussi aux gens par les blagues. Alors quand c'est avec utilité, ça va. Quand ça devient la rigolade pour la rigolade, ça amène en fin de compte aux interactions sexuelles. Parce que pulsions sexuelles sont les plus fortes qu'il y a chez l'être humain. Et le sérieux, c'est-à-dire ma résistance, ma raison, peuvent arrêter ces pulsions. Mais quand maintenant je vais faire sauter ces résistances du sérieux, justement, par la rigolade, donc il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de choses importantes. Et puis on rigole, puis il y a des garçons, puis des filles. On rigole avec les filles aussi, et puis ça rapproche. Il n'y a rien qui approche plus. Shulchan Aruch, il interdit. Shulchan Aruch, dans ce que je dis est super pas médiatique, surtout en France. On va se faire ratatiner, mais bon. La loi est la loi. C'est du latin. Lex. Dur alex, sed lex. Je fais du latin. Volontairement, Rabbi Marco. On nous avait fait du latin à l'école. T'imagines un peu la bêtise. Alors, dur est la loi, mais c'est la loi. Alors, nous dit la loi dans Shulchan Aruch Eben Ezer, chapitre 21, alinéa 1. Il faut beaucoup, beaucoup s'éloigner des femmes, et on n'a pas le droit de rigoler en face d'elles, de rigoler avec elles, d'accord ? On te fait des blagues, tu rigoles, ça rapproche, en chidour, oui, parce que le but, c'est de se rapprocher avec sa femme, beaucoup, quand c'est nécessaire, d'accord ? Quand c'est nécessaire. Pour se rapprocher de la femme, attends, quand c'est nécessaire de faire rigolade, c'est très bien, ça détend, ça rapproche, c'est bien. Quand ça devient rigoler pour rigoler, ça devient plus que ce qui est nécessaire. Ça veut dire maintenant j'alimente le cerveau qui veut au contraire me faire oublier le sérieux de la vie, ça devient interdit. C'est ça la limite. Elle est quand, comment ? Dans chaque cas, il faut voir. Une fois, un rave m'a raconté qu'il devait sortir avec la rabbin Sotama Shaul quelque part. Il est venu le chercher. Il allait sortir. Alors il sort, il attend près de l'ascenseur et il voit comme ça, il guigne comme ça, il voit le rave. Il fait à sa femme, il fait comme ça des sortes de grimaces comme ça marrantes. Le rabbin Sotama Shaul, t'imagines, d'accord, le grand de la génération. À sa femme, puis elle rigole, elle n'était pas très contente qu'il devait partir. Et comme ça, ça rapproche. Elle a rigolé, il a fait rigoler, d'accord. Un homme, il fait rigoler sa femme, c'est tout à fait normal. Il faut se rapprocher. Mais notre femme, à Dieu ne plaise. Non ? D'accord ? À la maison, avec ses enfants, tout ça, c'est important. C'était sans cesse sérieux, Torah, ils vont partir, d'accord ? Il faut que les choses soient intéressantes. Un rave, voilà, je fais un cours, je suis obligé de mettre un peu. C'est important, d'accord ? C'est façon normale. On veut que ce soit agréable. Mais si ça devient plus que ce qui est utile, ça rentre dans le domaine maintenant d'oublier le sérieux de la vie. On alimente maintenant le contraire du sens de la vie. L'essentiel dans la vie, c'est la quête de sens, la vérité. Des choses qui sont vraies, réelles, importantes. La rigolade fait oublier cela. C'est l'atout de Amalek. Amalek, il est appelé Letzanout, d'accord ? Railleur. Et dans Michelet, dans les prophètes, c'est marqué Letztake. Ou Petiyarim, Letztake. Tu frapperas le moqueur. Pourquoi ? Comme écrit Misatisharim, le rigoleur. Le type, il rigole toute la vie. Maintenant, Dieu, ou bien il va le laisser rater sa vie, ou il veut le réveiller. Qu'on comprenne que la vie, c'est sérieux, pas sans cesse rigoler. Qu'est-ce qu'on fait ? Le seul moyen, tu vas lui parler, il va prendre la rigolade. Il dit, écoute mon chat, mais la vie, tu sais qu'un beau jour, c'est fait. Ah, ouais, vous êtes marrant, vous les religieux. D'accord ? Ou bien, n'importe où, il dit qu'il y a toujours une parade pas sérieuse. Ça, c'est la prina de Amalek. C'est la façon d'être de Amalek. Le seul moyen de le rendre sérieux, tu envoies les souffrances. Là, il se tord de douleur, il rigole plus du tout. La vie, ça devient très très sérieux. C'est terrible. Qui veut des souffrances, d'accord ? On a besoin de ça. Ça, c'est pour la 4, le groupe des Letzanim. Maintenant, ta question, alors, Letz, c'est pas, on appelle ça moqueur ou railleur, mais c'est pas dans le sens de se moquer d'eux. Se moquer d'eux, on rentre dans une autre catégorie qui est maintenant, souvent, de ne pas faire du mal à son prochain. Onadvarim, ça s'appelle. C'est un lavdoraita, une interdiction de la Torah, comme voler, mentir, manger du porc, blesser son prochain. Et là, Razonich décrit que c'est le travail de toute une vie, arriver à jamais blesser son prochain, presque impossible. Il y a des sensibilités différentes. Ce que tu feras à quelqu'un fera plaisir, à l'autre ça va le blesser. Tu fais une blague à quelqu'un, lui il rigole, au contraire il est content, il te trouve très très sympa. Tu fais la même chose à un autre, il est super blessé toute sa vie. C'est très 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 délicat, c'est très dur. Ce n'est pas des lois qui sont écrites au Shulchan Aruch. Comment blesser, comment ne pas blesser. Il faut penser à toutes les sensibilités qui sont différentes pour faire attention. C'est très dur. Alors si maintenant tu parles, on rigole, ok, et on s'envoie des vannes. C'est très délicat. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, tu vexes quelqu'un. Maintenant, lui n'est pas vexé. Pourquoi ? Parce que lui veut aussi légitimer le fait qu'il puisse vanner aussi sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se crée une carapace de rhinocéros, d'accord, d'hippopotame, qu'on lui envoie des flèches, même des flèches des fois très acerbes, d'accord, mais il est complètement imperméable. Donc, tu l'envoies un truc, tac, il te renvoie aussi. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Si on a vexé quelqu'un, la personne l'est touchée, c'est clair. Même si elle ne montre rien du tout, on a transgressé l'interdit de la Torah. Mais ce n'est pas juste, même si on ne l'a pas touché, c'est pas dans le sens du désir de Dieu, le désir de Dieu, il veut qu'il y ait du shalom, qu'il y ait de l'amour entre les gens. Alors tant que c'est sympa, c'est gentil, ça va. Quand ça devient limite, et ça peut revenir très facilement limite, des gens sont sensibles, il y a des gens qui souffrent, et qui sont hypersensibles, et toi tu fais une petite blague gentille, et il est touché. Ça va pas. Il va pas montrer. Et il va te répondre aussi peut-être en rigolant, faire une vanne à toi aussi. Mais alors qu'est-ce que c'est ? On est là maintenant pour se tirer des balles dans les pieds ? On fait pas une chose pareille. Donc, comme a dit Nathaniel, c'est pas terrible. Alors allez, mollo, faire attention, on joue avec le feu. D'accord. D'abord au niveau de la rigolade qu'on soit, c'est peut-être un problème si ce n'est pas utile. Ensuite, au niveau de la sensibilité. Là, je vais raconter l'histoire, je vais la répéter ici, qu'on a étudiée dans Ktubot. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Rachumi, qui était un grand tzaddik, un grand Tamil Chacham, étudié jour et nuit. Et un point tel, qui a dit à sa femme, écoute, moi je veux devenir Rabbi Akiva de la génération prochaine. Rabbi Akiva a quitté sa femme 24 ans. Moi, je vais être plus sympa. Je reviens toutes les années un jour. Je viens pour Kippour. D'accord ? Je reste Kippour. J'arrive le matin, je repars le lendemain soir. Et bon, on aura 36 heures ensemble par année. Bon, elle a accepté. Elle voulait aussi un mari comme Rabbi Akiva. Mais évidemment, durant toute l'année, c'est pas facile. La veille de Kippour au matin, elle attend que son mari arrive, 8 heures du matin. 8h30, 9h, 9h30, elle regarde, il arrive. C'est pas qu'il arrive de New York, d'accord. À l'époque, ils étaient peut-être à 5 km, 10 km de l'endroit. Et lui, il se levait tôt le matin, il a commencé à étudier, puis c'est trop intéressant, puis je vais à la maison, allez, je vais rire un petit pour bientôt, je vais encore gagner encore quelques minutes. C'est ok, j'arriverai une heure en retard. Au bout d'un moment, une larme. À ce moment-là, dit Chazal, le toit du Beit HaMidrash s'est effondré et il est mort. Une larme de sa femme a provoqué sa mort. Demande Rav Chaim Shmulevitch. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, on a vengé maintenant la souffrance qu'elle a eue. Mais demande-lui à cette femme, qu'est-ce qu'elle préfère ? Une heure de retard ou plus de mari ? Du tout. C'est clair. Elle préfère un mari en retard plutôt que pas de mari du tout. Répond le Rav Chaim Shmulevitch. Dans le ciel, c'est tellement grave de faire souffrir quelqu'un qu'il n'y a plus de logique. Tu as fait souffrir, ça déclenche un mécanisme terrible de vengeance. Voilà, sans plus rien compter. Tellement c'est grave. Des fois, on fait mal à quelqu'un. Des fois, 30 ans, 40 ans après ça, il n'a pas oublié. Et quand il pense à ça, il souffre. C'est très dur, surtout les jeunes. Les enfants n'en parlent pas. Les enfants, c'est d'une cruauté terrible. Terrible. Mais quand on passe de l'âge enfant à l'âge adulte, il faut commencer à faire attention. Quelqu'un m'a écrit qu'étant petit, alors je ne sais plus quel âge c'était, peut-être entre 8 ans et 13 ans, 12 ans à l'école, et bien un, il descendait sans cesse. Descendu. Puis bon, ok. 10 ans sont passés. Il a 22 ans. Et il a pensé, quand même, ce type-là, je descendais sans cesse, mais j'en ai fait une crêpe, hein, pancake, d'accord, ratatiné. Elle a pris contact avec lui. Il dit, tu sais, dans la jeunesse, je t'ai fait beaucoup de mal, tout ça, tu m'excuses. Il dit, je ne peux pas. 10 ans sont passés. Je ne peux pas. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre de cela. Je suis complexé, je souffre. Comment? Il dit, je ne peux pas. Il m'a écrit, qu'est-ce que je fais?
Il a le droit de ne pas lui pardonner comme ça.
Hein? Bien sûr, il a le droit de pas lui pardonner. Le type, pendant 20 ans, il te fait souffrir, 3 ans, je sais pas, d'accord? Tous les jours, tu souffres, t'en peux plus. Pardon? Quoi pardon? Tu m'as tué, tu m'as détruit. Pardon. Alors, je lui dis ce qu'il faut, essayer d'emmener une délégation, des gens vraiment en carpette, en pleurs, essayer de sensibiliser, que tu regrettes, que tu vraiment, tu t'es mal. Pas pardon, il faut vraiment. Et le type, il peut ne pas pardonner. Il peut pas, il n'arrive pas. Il devrait, au bout de 3 fois, il devrait pardonner. Mais il y a une vraie. Le type, il doit vraiment aller en
Dieu,
pleurant.
Il les pardonne après. Moi, la vérité, mes parents, je les pardonne, mais je dis toujours à Dieu que lui, il les pardonne. Parce que
Nous, tous les soirs avant de dormir, on dit Kretschma Shalamita. On dit, avant d'aller dormir, on fait Kretschma Shalamita, le Kretschma, Shema Israël, qu'on appelle sur le lit. On ne le fait pas sûrement sur le lit, on peut le faire sur une chaise dans la cuisine, peu importe. Et là, avant. On dit, j'excuse, je pardonne toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit à mon honneur, à mon argent, à mes biens, dans ce Gilgoul, dans le Gilgoul passé, de toute forme que façon qu'elle puisse y avoir, je pardonne et que personne ne soit puni par moi. Voilà, très bien, on l'a fait pour tout le monde.
Et si quelqu'un il dit ça, mais au fond lui, il pense vraiment à quelqu'un qui l'a.
Alors non, le Rav Nissim écrit une chose là-dessus, que quelqu'un il pense pas qu'il pardonne à tout le monde, qu'il ne dise pas. On ne doit pas mentir à Dieu. Mais feu. Hein? Ouais, dis, je pardonne, sauf à lui.
Ouais. Ça, c'est pas le reste. Déjà, c'est.
Ouais.
Si la femme du Rav, elle l'avait pardonné, à ce moment-là, elle serait morte ou pas?
Je pense que dans le ciel, on parle elle pardonne de toute façon. Il ne faut pas que son mari.
Sur le moment, elle était.
C'était de la peine et pas contre son mari.
Mais c'est pas une question. Voilà, c'est pas une question de pardonner ou pas. Elle souffre, c'est tout. Je souffre. Je pardonne, bien sûr que je pardonne mon mari, mais je souffre. Ça me fait mal. Mon mari, il m'aime plus, il m'a oublié que je ne comprends pas. Une heure, il ne peut pas venir. J'attends toute l'année, je ne comprends pas. Aïe.
Est-ce qu'on peut faire pas pardonner, c'est comme si, admettons, des fois, c'est comme si je veux faire un régime, j'y arrive pas. Il faut que j'arrête de me dire de manger beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je m'enferme dans une porte et jette la clé. Est-ce qu'on peut faire pareil? Tu veux dire, voilà, je les pardonne. Et même si des fois, je leur en veux, n'oublie pas que là, si je les pardonne.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Parce que quand quelqu'un pardonne, alors, ça peut qu'il ait encore en dedans, des fois, ça revient, le souvenir, la souffrance revient, et ça lui fait mal. Ça, c'est l'imagination, ça veut dire, c'est les sentiments, les choses qui reviennent. Mais si la tête, elle a dit, je pardonne, ça veut dire, pour moi, le Rambam, il dit que, on n'a pas, il explique, dans la Torah, il y a un interdit, l'oticom et l'otitor, pour le droit de se venger, et pas le droit de garder rancune. C'est quoi se venger? Rouven demande à Shimon, prête-moi ton stylo. Non. Bon, le lendemain, Shimon demande à Rouven, prête-moi ton crayon. Tu ne m'as pas prêté ton stylo, ben je te prête pas mon crayon. Ça, on n'a pas le droit, c'est une vengeance, c'est interdit. C'est un lave d'oreille. Maintenant, l'otitor, Rouven demande à Shimon, prête-moi ton stylo. Non. Le lendemain, Shimon demande à Rouven, prête-moi ton crayon. Moi, bien sûr, je te prête le crayon. Je ne suis pas comme toi qui ne m'as pas prêté hier le stylo. Moi, je te le prête, sans aucun problème, avec un grand sourire. Il a transmis un lave d'oreille de tenir rancune. Dit le Rambam, Imre Adavar Milibo. Il effacera ça de son cœur. Rien. Je pose la question que je me suis posée longtemps, quoi. Il faut être amnésique. Le coup du silo, c'est gentil. Quelqu'un, il m'a, pendant 3-4 ans, il m'a boxé tous les jours. Il m'a souffert terriblement. Maintenant, il vient demander pardon. Je dois pardonner. Au bout de 3 fois, je pardonne. Et fini. Plus jamais. Rien. Pardon? Ou bien même, ça s'il m'a fait du mal, mais il n'a pas voulu me faire du bien. Il avait, je ne sais pas moi, il pouvait me prêter quelque chose, j'en avais très très besoin, il ne m'a pas prêté. Il n'est pas obligé. Maintenant, lui, il vient et me demande justement de prêter un truc. Bon, c'est très dur pour moi de prêter, mais je sais qu'il a besoin. Et je lui prête. Je ne vais rien lui dire. Rien lui dire. Avec un grand sourire. Pas de signe du genre « je suis un peu différent que toi ». Le Rambam dit « il faut oublier, effacer de son cœur ». C'est quoi effacer de son cœur ? Alors, à mon humble avis, ce n'est pas qu'on devient amnésique. C'est-à-dire qu'avec ma raison, j'ai dit « écoute, tout ce qui m'arrive provient de Dieu. Donc ce type-là, c'est un envoyé. Je ne vais pas lui en vouloir. C'est comme ça, ben, ça ne me fait rien. Maintenant, même si je souffre, ok, c'est pas de, je ne lui en veux pas à lui. Je peux souffrir, mais ce n'est pas une haine que j'ai contre lui ou un désir de vengeance contre lui. Lui est envoyé de Dieu, c'est tout. Donc au niveau du cœur, bien que je n'ai pas oublié, mais je n'en veux pas à lui. Bien que je me souviens tout de suite, même si des fois ça revient, je dois avec ma tête corriger. C'est faux, je n'ai pas à lui en vouloir. Tout vient de Dieu. Il y a un travail à faire avec la raison. Du moment qu'on fait ce travail, alors il n'y a aucun problème. On ne transgresse aucun interdit. Tu parles de tes parents. Hein, toi, personne ne sait qui tu es sur Internet, d'accord. J'en profite pour dire, en tant que parent, grand-parent, et vous en tant que futur parent, il y a une sorte de fausse idée qui se balade dans le monde, que les enfants, on a le droit de les faire souffrir. Bon, nos propres enfants, et même des fois, un enfant du voisin, il fait un truc, je lui dis, non, je crie dessus, par exemple. C'est un adulte, je n'aurais pas osé lui crier, mais un petit enfant, je crie dessus. Même des fois, je fais peur, ou même une fessée. Il n'y a aucune différence dans les lois du respect de l'autre qu'on doit avoir envers un adulte en comparaison avec celle qu'on doit avoir avec un enfant. Pire! Parce qu'un adulte à qui j'ai fait du mal, après je m'excuse, je vais pardonner, il peut pardonner. Un enfant, pas. Un enfant, le pardon a lieu que le jour où il est bar mitzvah. Le Stapler, histoire terrible, le Stapler, comment c'était exactement l'histoire? Stapler, c'est le père de Abraham Kanevski, le Rav Yaakov Israel Kanevski, un des grands de la génération. Le roi HaKodesh, un monsieur extra, bon, un des grands de la génération, énorme, énorme, énorme. Un ange. Je crois qu'un jour de Kippour, il voit un gosse qui est à la synagogue, il ouvre un bouquin de, je ne sais pas moi, un bouquin, c'est mal à dire comme ça. Quoi ? Et Yom Kippour, tu fais comme ça ? Il faut prier ! Ouais, c'est assez lourd, je suis en train de prier. Désolé.
Petite erreur.
Il avait quel âge le gosse ? 6 ans, 7 ans. 7 ans plus tard, le stapler revient à la bar mitzvah. Il y a un cadeau. Je demande Mechila. Ce jour du Kippour, tu te souviens ? J'ai cru que j'avais lu dans un bouquin comme ça. Et j'étais un peu réprimandé. Je demande Mechila. 7 ans. Il n'a pas oublié, hein ? Il a noté. Et les parents, avec les enfants, les parents croient que les enfants, c'est leur domaine, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Jamais de la vie. Du ciel, on t'a envoyé une âme grande, pure, que tu dois maintenant travailler comme un diamant, d'accord ? À l'état brut, tu dois travailler pour le rendre brillant, d'accord ? Mais il y a du travail, on t'a pas de l'esquinter. Combien de fois les parents sont énervés et sous ce qu'ils appellent éducation, ils crient sur leur enfant, tapent leur enfant en air ? C'est terrible. Terrible. C'est un.
Si au bout d'un moment, l'enfant ne comprend pas.
On ne doit pas s'énerver, on va se calmer, on fait une thérapie de calme, d'accord ? Et on éduque. On éduque. Non, c'est on éduque. C'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. C'est très dur. C'est très dur. C'est très, très, très dur. Mais au moins qu'on comprenne qu'on est malade. Qu'on comprenne qu'on est dans l'erreur, ce n'est pas l'éducation. Quand un parent crie de nerfs sur l'enfant, il enseigne à son enfant de crier quand il a des nerfs. De crier avec des nerfs, d'accord ? Quand on frappe un enfant avec nerfs, il ira demain dans le préau, il va frapper son copain avec des nerfs. C'est pas de l'éducation, c'est de l'anti-éducation qu'on fait. L'anti-éducation. Il y avait un grand éducateur, Jacobson. Il dit, imaginez, hein, des fois le père vient, ou la mère, d'accord, le père, il veut bouffer l'enfant, d'accord ? Il dit, du point de vue physique, le père, il fait 5 fois la grandeur de l'enfant. Alors imagine maintenant que tu as un géant qui fait, donc nous on fait 1m70 x 5, ça nous fait 18, 9, 8 mètres 50. 8 mètres 50. Boum, King Kong, d'accord. Il est super énervé, qui court vers toi comme ça pour... Le gosse, il doit faire face à ça. Mais c'est terrible. Ça, c'est avant qu'il ait les coups. Il a les coups. Il a les nerfs. Après, on comprend pas pourquoi il y a autant de gens toqués sur Terre. Qui sont responsables? Les parents, en premier. C'est terrible. Ce sont des néchamotes. On n'a pas le droit de faire du mal à qui que ce soit, sauf pas à nos enfants. Surtout pas à nos enfants. On a le droit d'éduquer. Et des fois, pour éduquer, on doit faire mal. Mais quand c'est éducatif, c'est censé, c'est fait raisonnablement et pas par nerf, par méchanceté, pas par vengeance. On n'a pas le choix. Il faut dire à l'enfant, j'ai pas le choix. Alors on l'avertit 10 fois. La prochaine fois, je suis désolé, mais je comprends que tu comprends que la fessée, ce sera la fessée. Quand la fessée, je suis désolé. Tu sais pourquoi? Je t'ai expliqué, je suis vraiment désolé, mais je dois te faire la fessée. Gentil, d'accord? Et tu donnes la fessée, voilà. Il comprend. Terrible.
Faire semblant d'être énervé.
Je pense qu'il est mieux de ne pas faire semblant. Parce que si tu donnes la fessée maintenant. Tu donnes la fessée, alors fais-le calmement. Il comprendra que c'est éducatif.
C'est pas sur les nerfs, c'est vraiment fait posément. C'est...
Ouais, bon, c'est la théorie, messieurs. Sur pratiquement du travail, oui.
Excusez.
Ça fait du mal, c'est obligatoire. Hein, pardon?
Moi, j'ai fait du mal à une personne.
Bien sûr, tu dois t'excuser. C'est obligatoire, je t'explique pourquoi. Parce que tant que tu n'es pas excusé, tu as péché envers lui et tu as péché envers Dieu. Tu as un double péché qui est grave. Grave, parce que Dieu met beaucoup plus l'accent sur les péchés qu'il y a entre l'homme et son prochain qu'entre l'homme et Dieu. Dieu, il peut, tu l'envoies balader, ça va. Mais ton prochain, il souffre. Tu fais souffrir quelqu'un? Très grave, très grave. La Torah met un accent très grand là-dessus.
Ici, il a déjà parlé.
Tellement de religieux, soi-disant, qui font Shabbat, mangent kasher et écrasent les gens. D'accord? C'est très grave. Très grave. Très, très grave.
J'avais entendu dire comme ça que j'étais pas obligé de demander pardon à mes parents, puisqu'ils sont mochel, ils me pardonnent.
Ben Ishraï, il écrit que la veille de Kippour, chacun ira voir ses parents. Ou si ce n'est pas possible, parce que c'est dans notre pays par téléphone, et s'excuser, demander pardon pour la souffrance qu'on a fait cette année. Et il dit, et si le fils, il est idiot, choté, il dit, sot, crétin en bon français, d'accord, et ne fait pas ça, alors que les parents lui pardonnent. Bien sûr qu'il faut.
Même quand on n'a rien fait à ses parents, il faut leur demander pardon.
T'as jamais fait de mal à tes parents? Le Rabbi Yochanan, il dit, Ashrei lo chama'an, heureux celui qui n'a pas vu ses parents. Parce qu'il est impossible de ne pas avoir transgressé l'interdiction tellement grave, le cinquième des 10 commandements, d'honorer ses parents. Tellement la barre, elle est haute.
Vous dites heureux celui qui est orphelin.
Exactement ça, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit ça. Comment on peut dire on n'a pas péché contre tes parents? Bien sûr. Même des parents qui ont été mauvais. Pire que ce que je dis maintenant. L'obligation de les respecter ne bouge pas d'un iota. Super respecté, c'est quoi de respecter? Ça veut dire jamais lui dire non.
Pas
lui dire non.
C'est bien. Je crois que si vous entraînez à aller.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr.
Vous voulez définir clairement c'est quoi exactement la Mechila? Parce que quand je suis vraiment Mochel, il y a des gens qui disent ah, Mechila, t'es Mochel? Ouais, c'est bon, je suis Mochel. Et les gens, ils sont Mochel, mais j'ai entendu qu'à chaque fois, le Mochel, c'est quelqu'un qui on lui a fait quelque chose, on l'a frappé, ce que vous voulez. Dit, on va lui demander les filles à dire oui, je suis mochel, ok, je t'excuse, mais il a dit à Rafazan que si la personne, on lui refait la chose et que ça le déplaît, ça le dérange, et c'est pas une vraie méchila.
C'est qu'on lui refait la chose, tu lui tapes de nouveau.
Je frappe quelqu'un,
ouais.
Mais je lui dis,
je m'excuse, je m'excuse,
et bon.
Je t'excuse. Après, tu lui frappes une
deuxième. Je refais, bah, ça le dérange encore.
Bien sûr, je comprends pas ça.
Ah,
je comprends pas.
C'est une fausse méchila, ça.
Elle est encore dérangée parce que je lui fais, c'est pas une vraie mérite. Une vraie mérite, c'est à partir du moment où ça ne fait plus rien ce que tu me fais.
Attends, quelqu'un, il m'a frappé.
Ah, c'est pour ça que
j'ai eu mal. Bon.
Ah, mais je lui en veux, ça.
Avant qu'il pour, il vient, écoute, j'ai pas de mots pour dire. Ce que j'ai fait est intolérable, inconcevable, inacceptable. Ça fait des mois que je morfonds, je dors plus la nuit. Demande-moi ce que tu veux, je te donne un dédommagement pécuniaire, ce que je peux faire pour que tu m'excuses ce que j'ai fait. C'est terrible. Terrible, je m'excuse, et ils fondent en larmes. Je lui dis, bon, c'est vrai, c'est pas grave, c'est bon. Ah ok, c'est bon. C'est mon rêve. Ça tient pas la route. Ça tient pas, il y a un truc qui cloche là-dedans. Je ne vais pas comprendre. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Je ne comprends pas. Ben non, non. Mechila, ça veut dire, pour le passé, je vois que tu t'excuses, que tu regrettes vraiment. Comme un lieu, je vois que tu regrettes. De tout ton corps, tu as tellement voulu ne pas, et tu souffres de ce que tu as fait. Tu me dis maintenant que je t'excuse, ok, ben j'accepte. Mais ne le refais plus. Baruch Adonai, l'homme va me...